Bonjour les joueuses et bonjour les joueurs. Nous sommes le mercredi 25 février 2026 et vous écoutez le débrief du premier jour du Festival International des Jeux de Cannes, réalisé par Proxy Jeux. Proxy Jeux, c'est le podcast qui vous parle de jeux de société. Je suis Drew et je suis accompagné de pas moins de 6 chroniqueurs et chroniqueuses de Proxy Jeux avec moi, puisque, comme vous l'avez entendu, nous sommes au Fuge et oui, ça recommence, premier jour, plein de nouveautés, on va en parler. Je suis accompagné, allez, on va faire le tour de table à ma gauche par Cyrus, bonjour Cyrus.
Salut Drew.
Suivi de Peter.
Salut Drew, salut à tous.
Nous accompagne aussi Kurtz.
Salut Drew, salut tout le monde.
Suivi de Elodie qui n'a pas attendu le dernier jour pour perdre un petit peu sa voix.
Ah bah non, moi j'ai attaqué direct et donc on m'appelle Macha Béranger aujourd'hui.
Oh mais c'est revenu déjà dans la journée, ça va, ça passe. Caducée est avec nous aussi.
Salut tout le monde.
Et on termine par Lana.
Salut, je vous refais le jiggle ou c'est bon?
Et pardon, je vous ai même pas dit bonjour. Bonjour à tous et toutes.
Et si nous sommes là, c'est un peu grâce au Fige, qui nous prête un peu ce stand pour vous faire des débriefs, qui nous permet de vous relater ce à quoi on a joué tous les jours, et surtout de vous faire plein d'interviews. Alors aujourd'hui, on n'a pas réalisé d'interview, c'est un jour un peu particulier, c'est le premier jour, hein. C'est encore un petit peu en travaux, mais à partir de demain, nous aurons plusieurs interviews par jour que vous retrouverez au fil des semaines et au fil des mois, sur on va dire sur les 3-4 mois à venir. Mais nous remercions aussi nos donateurs et donatrices qui nous permettent d'être ici, puisque c'est grâce à leurs dons que nous pouvons nous payer le logement. Merci à eux et merci plus particulièrement à
Dr. Che, Wolfring, Siol, La Famille Blue, Fendoel, B1, Jimmy Celtics 95, Olfemf, Grovas, Nox, Delotte, Croclum, Laurent 36, Eightpool et Paul. Bon, Eightpool peut-être.
Merci à eux.
Et franchement, quand on n'a jamais mis avant de sa vie les pieds dans un palace sur la croisette, merci les auditeurs, hein. Merci les donateurs.
C'est vrai que le Carlton s'est pas donné. Sans eux, on pourrait pas y aller, hein. Franchement, là, c'est pas possible. Non, on rigole. On est quand même sérieux avec l'argent des donateurs. Mais par contre, on a quand même un bon boost cette année, puisqu'on n'est plus au sous-sol, quand même, hein. Si vous entendez ce débrief et que vous êtes sur le Fige, que vous voulez venir nous voir, ne nous cherchez pas à la cave. On a été un petit peu upgradé. Maintenant, on est dans la rotonde. Vous me croirez pas, mais on voit la mer depuis notre stand. Et le soleil quand il y en a.
Alors, on voyait la mer. Je sais pas si toi, d'où tu la vois. Ah, voilà. Parce que là, moi, j'ai pour l'instant une grosse affiche Flesh and Blood à côté de moi qui me cache ma vue sur mer.
C'est vrai. Alors, moi, je la vois.
Moi, je la vois.
Moi, je la vois un petit peu entre une grue et un yacht. Hein. Mais bon. Et quand il y a du soleil, c'est là que ça se couche aussi. Donc, c'est pas mal le soir. Mais aujourd'hui, c'est un peu nuageux.
Et on la voit aussi parce que derrière nous, il y a la magnifique bâche du jeu de Elizabeth Hargrave, Sanibel. Donc on a quand même quelque part aussi une vue sur mer, presque à 380 autour de 360. Je suis très mauvaise en maths. 360 autour de nous.
Donc si vous voulez nous faire un petit coucou, donc c'est tout en haut dans la rotonde, l'ancienne salle du off pour les plus anciens d'entre vous. Et nous sommes au L506, numéro du stand. Et attention, hein, parce que si vous cherchez notre nom, il y a eu un petit truc quand même qui s'est pas bien passé comme prévu. Hein, Kurtz, tu peux nous dire?
Eh ben, il s'avère qu'hier, on est arrivé avec Peter les deux premiers sur le stand. Et il s'avère que vous qui avez l'habitude qu'on dise toujours proxy avec un I et jeu avec un X. Eh ben non, ça a changé. Il y a plus de X à jeu. C'est fini.
Mais la maintenance a été...
Ils nous ont pas mis notre X à jeu, bordel. On n'arrête pas de le répéter.
Et ils nous écoutent pas, je suis sûr.
Et pour corriger, ils ont sorti le marqueur, mais ils n'avaient pas de marqueur noir. Donc, on est le seul stand qui a une affiche avec une lettre en rouge. Vous pouvez le repérer de loin et à la main. Et ça, c'est la classe.
Oui, parce que le X, on le voit, mais c'est si on est à 2 mètres du panneau. Hein, parce que quand même, bon, de loin, on voit pas le X.
Et en toute objectivité, les panneaux ils sont tellement hauts que de toute manière, on ne les voit pas.
Oui.
Parce que c'est vrai que sur la rotonde, le plafond est très haut par rapport à en bas. Donc, faut vraiment lever la tête pour voir le nom des panneaux et voir les numéros.
Oui. Et puis, en fait, les panneaux au sous-sol, ils sont perpendiculaires aux allées. Donc, quand on arrive, on les voit. Alors que là, dans l'axe principal de déplacement, ils sont parallèles. Donc, en fait, on voit la tranche du panneau. Et donc, faut regarder. Bon. Il n'y a pas tant de stands que ça au deuxième. Donc, vous nous trouverez si vous cherchez un petit peu.
Ah, vous cherchez Magic, Tortue Ninja.
Voilà. Ah, et vous trouverez Cyrus. Oui, parce que alors pourrait y avoir des blancs dans les interviews de Cyrus, parce qu'on est en vis-à-vis avec le Magic Tortue Ninja, donc il se peut qu'il soit un petit peu happé par des animations, surtout qu'il y a un grand écran de 5 mètres par 3.
Oh, happé par les AP.
Happé par... Oh, c'est beau. Oh, le jeu de mots, incroyable. Et oui, j'attends encore de savoir s'il y a vraiment des AP, donc des avant-premières de Magic Tortue Ninja, pour savoir si je me tâte encore à y aller ou pas. Hmm. Ça dure quand même normalement de 14h à 18h, donc c'est quand même un après-midi complet. Hein.
Et il y aura peut-être des exclusivités, parce que je vois qu'en face de nous, là-bas, il y a un studio qui se prépare à se monter, là, avec une caméra zénitale qui va filmer la table, donc il y aura peut-être des petites choses un peu exclusives, ou peut-être des diffusions en direct. Et ça me permet de rebondir sur le fait que bah, nous tentons des choses aussi, puisque nous sommes sur Discord en ce moment. Donc pareil, si vous écoutez assez tôt, peut-être que vous pourrez suivre. Peut-être qu'on diffusera les autres débriefs des autres soirs, je sais pas, quelque part entre 17, 18 heures. Si ça marche, si on a du réseau, parce que ben là on en a, parce qu'il n'y a pas grand monde sur le festival. Peut-être que demain le wifi sera un petit peu plus capricieux. En tout cas, checkez un petit coup si vous voulez nous entendre en direct, pour entendre toutes les bêtises qu'on dit et qu'on coupe au montage. Eh oui, parce qu'on en dit bien des bêtises hein, quand même. Donc, Caducée, tu vas nous parler d'une nouveauté aussi cette année au Fige.
Et oui, on voit apparaître une safe zone au Fige qui sera installée donc à l'extérieur, qui est gérée par l'association Safe in Game, donc qui sera présente pendant le Fige pour informer et sensibiliser le public et les professionnels aux violences sexistes et sexuelles donc dans le milieu ludique. Elle propose également un accompagnement aux personnes concernées et peut éventuellement faire le lien avec le service de sécurité du Palais des Festivals si ça devait être nécessaire. Donc c'est vraiment au cœur du village festival, en plein centre de quand il y a l'entrée grand public en fait, en partant tout droit vers le Palais des Festivals, il y a un Algeco avec marqué Safe Zone, Safe in Game. Vous pourrez les trouver là-bas si besoin.
Et donc qui est-ce qui peut aller dans cette Safe Zone?
Toutes celles qui se sentent concernées par le sujet, qui ont besoin d'en discuter, qui ont pu subir des violences, quelles qu'elles soient, ou qui ont envie d'en apprendre plus sur le sujet aussi pour pouvoir se renseigner.
Pas forcément parce qu'elles ont eu des problèmes sur le Fige, vraiment pour, voilà, ça peut être plus large.
Ça peut être juste pour avoir des informations sur le sujet également.
D'accord. Merci pour l'info, donc vous saurez si vous avez besoin d'aller faire un petit tour là-bas. Et donc cette première journée, je disais, est quand même un petit peu particulière, hein, parce que ben l'année dernière, on avait fait des interviews, on avait pu jouer le mercredi et tout était ouvert, mais cette année, c'est un peu différent.
Oui, donc cette année, ils ont décidé de réserver, alors la journée du mercredi était déjà réservée aux professionnels. Là, cette fois-ci, ils ont décidé de fermer la partie qui est destinée au grand public, en fait. Hein, donc, tout ce qui est rez-de-chaussée, sous-sol et plus un, là où nous on se trouve. Toute cette partie-là est inaccessible aux gens qui sont porteurs d'un badge pro, qui sont généralement des boutiques. Voilà, et après, il y a d'autres types de badges. Bon, bref, je vous la fais courte. Et donc, il n'y a que les salons pro qui sont ouverts. C'est comme ça qu'ils appellent ça, non? C'est un salon pro, espace pro, voilà, espace pro qui sont ouverts. Voilà, donc on a eu un peu peur de pas trouver beaucoup de tables, du coup. On a eu peur que ce soit un peu des dispositions différentes. Mais finalement, on a retrouvé les espaces pro qu'on connaît. Il y avait en plus des espaces de démo supplémentaires. Je sais pas si on va les retrouver le reste des jours. Et bref, on a réussi à jouer. Et donc, on va effectivement pouvoir vous parler de jeux.
Oui, c'est clair que les exposants ont profité de ce jour supplémentaire. Hein, parce que ce matin encore, il y avait des palettes partout, des stands qui étaient clairement pas prêts. Il y a encore des stands qui font les finitions, on va dire, ce soir. Donc, tous les exposants étaient, on va dire, bien au courant qu'ils auraient ce mercredi en plus. Alors, par rapport à l'année dernière, ça leur donne une journée pour s'organiser. Alors, organiser le stand, mais ils ont quand même besoin d'être présents dans l'espace pro pour montrer leur jeu. Donc, peut-être pas des économies d'animateurs, forcément. Et là, je suis passé vite fait au sous-sol avant de venir ici. Ça jouait pas beaucoup sur les tables. Hein. Vraiment, ils ont, on va dire, respecté un petit peu. Je sais pas s'il y a eu des consignes plus particulière de données, mais il y avait vraiment peu de tables, voire ils se servaient de leur table pour avoir des rendez-vous d'auteurs et tester des protos, mais en tout cas zéro animateur et ils sont prêts pour demain, dans la plupart des cas en tout cas.
De toute façon, théoriquement, il n'y a que les gens qui ont un badge exposant qui peuvent accéder, hein, donc ça veut dire c'est que vrai.
Ouais, et ça fait une ambiance vraiment bizarre, un mix de gens qui veulent jouer, mais qui ne savent pas trop où aller. qui cherchent, et puis ben tous ces gens qui installent. Il y a un croisement, ouais, c'est pas une ambiance dont on a l'habitude.
Oui, oui, et puis tout le monde se posait un peu la question encore hier soir de qu'est-ce qu'il y aurait d'ouvert, est-ce qu'on pourrait jouer, est-ce que ça serait que des petits stands de démo où on voit, enfin de démo, d'explication du jeu où on a toutes sorties mais on explique comment ça joue et on n'y touche pas, donc tout le monde était un petit peu sur l'interrogatif et au final, ouais, bon, c'est plus chargé que les espaces pro d'habitude, mais je pense qu'en attendant un petit peu, on pouvait jouer à peu près à ce qu'on voulait, quoi.
Et alors, on a joué à quoi ?
Eh oui, t'as joué à quoi, voyons ? Donc, on a effectivement quand même pu jouer à pas mal de jeux, hein. J'en ai une bonne liste. On va pas tout vous faire aujourd'hui parce que on va essayer d'être un peu rapide quand même, hein. Parce qu'il y a quand même la soirée de gala après. Faut y aller, hein. Non? Bon.
Oh. Faut aller mettre les costumes et les cravates, c'est ça?
Ah merde, j'ai pas prévu le smoking. Et en tout cas, on a pu jouer. Toi, Caducé, qu'as-tu pu essayer aujourd'hui?
Alors, moi, je vais vous parler de Yami. Qu'on a pu essayer donc côté distributeur Neoludis qui est donc chez Musoka Studio. C'est une réimplémentation d'un jeu qui était sorti au Japon sous le nom de Kakapo en 2023. Et, un jeu coopératif pour 2 à 4 joueuses. On l'a joué à 4, donc une configuration qui nous a semblé plutôt correcte. C'est un jeu qui combine jeu de plis et pose de polyomino. Alors jusqu'où iront les croisements, on va voir un peu ce que ça donne. L'idée générale, alors Yami, ça veut dire ombre ou obscurité en japonais. Et l'idée du jeu, c'est que le monde de Kakapo est envahi par une créature, une sorte de lichen mystérieux qui vient contaminer les lianes du royaume. Et c'est contre ce lichen que les joueuses luttent à travers 22 niveaux. Et à chaque niveau, il faudra réussir à encercler des polyomino qui représentent le lichen par nos propres polyomino pour en quelque sorte le circonscrire. Et c'est là que le jeu de plis entre en jeu. Chacune a 8 cartes et chaque tour de plis permettra de désigner le polyomino qu'on posera autour du lichen. Et donc c'est la carte gagnante du pli qui va désigner le polyomino qu'on va utiliser et positionner sur la carte commune. Au niveau du pli, il y a rien de très fou, c'est du must follow avec par contre une couleur d'atout qui va changer à chaque tour et qui sera désignée par la couleur gagnante du pli précédent. Sur notre partie de découverte, on devait réussir à circonscrire le lichen en 7 tours. On a d'ailleurs réussi. Il y a 22 niveaux dans le jeu pour réussir donc à battre le gros vilain lichen, le boss de fin. On nous a bien expliqué que on pouvait nous frotter au niveau qui nous plaisait, mais on nous a quand même glissé à l'oreille que c'était mieux de respecter la progression du jeu parce que ça nous permettrait de récupérer des pouvoirs, des bonus, des capacités qui semblent quand même être indispensables à la victoire. Donc il y a plein de petites choses cachées qui sont pas accessibles au début de la partie et qui vont apparaître progressivement. Il y a donc un niveau de progression qu'on n'a pas pu tester. Il y a aussi un mode de jeu à 2 qui adapte un petit peu la mise en place avec une sorte d'équivalent de Jarvis dans The Crew qu'on n'a pas non plus essayé, hein. Après, dans The Crew ça fonctionnait plutôt bien à mon sens, je vois pas pourquoi là ça fonctionnerait pas. Et au final, c'était un petit mélange plutôt sympathique de jeux de pli, de jeux de placement, de jeux évolutifs qui m'a semblé digne d'intérêt. Donc je pense que j'y reviendrai pour voir un peu ce que ça donne un petit peu plus en profondeur sur les différents niveaux. On nous a dit aussi qu'il y avait, comme c'est une sorte finalement de casse-tête, on était libre d'inventer des sortes de mises en place de départ et de jouer avec cette mise en place pour voir ce qu'on arrivait à faire avec le jeu de plis derrière, hein, en positionnant les polyomino du lichen et en voyant ce qu'on arrivait à faire après en se débrouillant en fait avec des sortes de défis un peu renouvelables à l'infini. Donc à tester sur la durée, voir ce que ça donne. En tout cas, une découverte plutôt intéressante de mon côté.
Parce que tu places le polyomino du lichen sur une grille, comme ça,
c'est
au
ça,
hasard.
C'est ça, t'as une grille centrale, avec, donc, qui est définie en fonction des niveaux, avec d'accord, une mise en place donnée, avec ton lichen, avec déjà des formes de polyomino plus ou moins variées, et après, toi, tes polyomino à toi, ils correspondent aux 5 couleurs de cartes, et ils ont tous des formes différentes, et donc, si tu gagnes ton pli avec un set bleu, t'as le polyomino 7 bleu qui va avoir sa forme particulière et que tu vas pouvoir poser sur le plateau central et commencer à circonscrire en fait le polyomino du lichen.
Et j'imagine que c'est à communication limitée, on peut pas trop se dire laissez-moi
oui,
gagner.
Oui, d'ailleurs, oui. Nous, on a été peut-être un petit peu trop large au niveau communication. Après, c'était notre partie de découverte aussi, donc ça nous a permis de savoir ce qu'on avait le droit de dire ou pas. Mais effectivement, il y a une histoire de communication limitée là-dessous aussi, oui.
L'animateur nous a quand même dit assez régulièrement qu'on ne pouvait pas dire tel ou tel truc et qu'on communiquait beaucoup, beaucoup trop. Et il nous a dit aussi qu'ils allaient rajouter un défi par mois.
Ah.
Donc, il y a possibilité de flasher un QR code et d'avoir des défis supplémentaires.
En mode pas en mode solo, par contre. C'est pas, ça ne joue pas en solo.
Ah
c'est
non,
vraiment...
non, non, c'est un jeu de pli. Hein.
Oui,
non,
c'est vrai
non,
qu'il y a le pli, pardon.
Ah non, la mécanique de base, quand même, c'est du jeu de pli coop. Voilà. Ce qui est intéressant, je trouve, c'est que ça va sur un autre terrain que ce qu'on a pu voir en jeu de pli coop, où on essaie de remplir des objectifs, quelque part. Là, on essaie juste d'aller chercher les bons polyomino. Ça m'a fait une bonne impression. En fait, à posteriori, je me dis, mais c'était quand même assez scripté, tu vois. J'ai pas eu l'impression que on avait trop de choix, qu'il y avait un peu de technique à aller acquérir. Alors, peut-être avec les bonus, que du coup, on n'a pas vu.
Je pense que là, c'est vraiment la mise en place de départ pour découverte du jeu qui fait que tu prends en main plus le système pour comprendre comment ça fonctionne, que c'est pas fait pour te trop te stimuler pour la suite, quoi. C'est vraiment pour comprendre le jeu.
Ça aurait peut-être été intéressant de faire un truc un peu plus poussé, justement.
Oui, puis on a fait
que. C'est un bon plan, toi, on a souvent cette réflexion de est-ce que c'est un bon plan, dans ces jeux évolutifs, qu'est-ce qu'il faut présenter, tu vois. Et du coup, souvent, le prologue, le premier truc, en fait, c'est chiant un peu, quand même. Ah, et en fait, autant le jeu et le principe est, je trouve, attirant. Ouais, c'est ce qui m'a catché un peu. Mais avec le recul, je me dis, bon, en fait, la partie qu'on a faite, c'était pas fifou quand même, quoi.
Mais est-ce que ça te donne quand même envie d'aller voir la suite?
Bah, ouais, mais après, c'est le concept du jeu évolutif avec des enveloppes et des machins. Donc, et dans ces jeux-là, il y en a des biens, il y en a des pas bien.
C'est ça, mais si on te dévoile directement ce qu'il y a dans les enveloppes, bah, t'auras plus envie d'aller faire le jeu pour savoir ce que c'est.
Bah, dans ce cas, c'est que c'est pas bien.
Tu crois?
Bah ouais.
On verra.
Ah, moi j'ai trouvé l'enjeu quand même. J'ai trouvé qu'on n'a pas non plus survolé le jeu. Parce qu'en plus, on a beaucoup trop parlé que ce qu'on aurait dû. Et que si on n'avait pas parlé, je suis pas sûre qu'on aurait réussi aussi bien.
Non, mais justement, je pense qu'en fait, si on n'avait pas parlé, ça faisait pareil. Moi, je pense qu'on jouait les mêmes cartes.
Ouais, je suis pas sûr. Parce qu'il faut pas oublier qu'à chaque pli qu'on joue, on pose un polyomino, mais on en perd trois. Parce que les trois cartes qui perdent le pli, elles sont défaussées et elles ne reviendront pas. Donc chaque polyomino ne correspond qu'à une seule carte.
Mais quand tu sais que tu vas pas gagner, tu joues une petite carte de toute façon.
Oui, mais si ça se trouve, c'était la petite carte que tu joues, c'était quand même peut-être la bonne forme qu'il allait falloir plus tard.
Non, parce que justement, il y a pas une dynamique comme ça dans le jeu, parce que les petites cartes, elles ont des petites formes. Ça serait l'inverse.
Non,
ça serait l'inverse, je serais d'accord.
Au début, oui, mais là, on était au niveau. Hein. Si ça se trouve, à un moment tard dans le jeu, ça aurait, telle pièce critique dont on aurait eu besoin plus tard, elle avait été perdue définitivement parce qu'elle a été défaussée. Je sais pas.
On sait pas.
Un retour plus tard quand on aura pu creuser un peu plus le jeu, mais en tout cas moi ça me semble plutôt prometteur.
Peut-être un bon client pour le pour et le contre là, vu ce que j'entends.
Parce que enfin là où je veux en venir, c'est que moi aussi j'ai eu un attrait pour le jeu, on est sorti de la partie, tout ça, c'est cool. Mais attention, finalement on l'a pas vu, et est-ce qu'il y en a tant sous la pédale?
Moi j'ai un bémol, c'est parce que moi je suis vraiment pas bien spatialisée. Et évidemment, on peut pas aller prendre les polyomino et aller voir, parce que ça donne des indices sur ce qu'on a en main. À un moment, je l'ai fait, et puis je me suis dit, ah non, ça, en fait, j'aurais pas dû le faire.
Ouais. Après,
faut essayer de le faire dans ta tête.
Tes coéquipiers connaissent pas les cartes et les polyomino par cœur, pour l'instant, en tout cas. Donc, ils savent pas que si tu prends celui-là, ça correspond au 8 verts.
Bah, tu le vois, en fait. Tu le vois physiquement. Ah, si d'accord. Tu prends le polyomino qui est sur le bord de la table, le 5 bleu, par exemple, et que tu essayes de le positionner sur ta carte commune, tu vois que ton collègue, il est en train d'essayer de voir si le 5 bleu, ça pourrait rentrer, quoi.
Ah, parce que c'est noté, en fait, le polyomino en face de...
Oui, oui, tu vois,
en fait,
tous les polyomino sont à disposition.
Le polyomino, il a une couleur et le chiffre est noté dessus. Donc, ça correspond, si j'ai la carte 5 vert en main, c'est que ça correspond au polyomino vert avec le numéro 5 dessus. Okay. Donc, forcément.
Non, je pensais.
Si Elodie est en train de jouer sur le truc commun avec le 5 vert, je me doute qu'elle a peut-être la carte dans la main.
Non, je pensais que t'avais sur ta carte la silhouette du polyomino que tu peux aller chercher. Du coup, c'était complètement inconnu des autres, quoi. Effectivement, là, on peut pas trop aller.
Non, on peut pas trop aller bricater sur les jeux.
Ok.
Donc c'était donc Yami, les auteurs sont Hiroki Oba, Ryoji Suzuki, Hiraku Tezuka et Anthony Perron. illustré par Makoto Takami. C'est chez Muzuka Studio, distribué par Neoludis.
Très bien, merci Caducé. On va enchaîner avec Elodie qui veut nous parler de Mad. Mais elle est pas là, Mad. Qu'est-ce que tu...
Ouais, mais Mad, elle est quand même là un peu avec nous. On l'a vu, on l'a croisée. Elle était dans un immense kakimono. Alors, ils nous ont oublié le X à nous et ils lui ont oublié son apostrophe à elle. Trop nul. Donc, Mad, c'est un jeu de Thomas Dagenet L'Espérance qui était distribué chez Neoludis et l'éditeur, c'est Locomuse. Donc, c'est un jeu à objectif caché. Le but va être de devoir mettre le plus d'influence sur nos poulains. On commence le jeu avec une carte avec 3 poulains. Donc ça, c'est notre objectif caché, les autres ne le savent pas. C'est la définition de caché. Hein. Je suis déjà un peu fatigué. Hein. Vous allez voir, je vais aller la palissade, je vais les enchaîner comme des petites perles. Là. Préparez-vous. On est dans une ambiance tiki polynésienne. Il y a une petite carte qui, pour ceux qui ont joué Crash Bandicoot. Donc vous avez le tiki là. Donc moi j'ai eu le Wundgar tout le temps dans la tête. Voilà, qu'on a ce petit tiki.
Boulwaga.
Voilà. Je savais que vous auriez la ref autour de cette table. Sauf que voilà, c'est pas nous qui allons poser les cartes qui vont faire les points d'influence, qui peuvent parfois être négatifs, voire même mortels, parce que parfois on tue nos légugus et gucettes. On va éviter de tuer les nôtres. Hein. Mais on va donner la carte à une personne de notre choix autour de la table, qui, en lui disant, bah tiens, est-ce que tu peux mettre l'influence sur la princesse, sur le guerrier, donc c'est le Tiki Wundoka, ou sur l'ancêtre, qui est une très belle carte. Et la personne choisit ou non de suivre nos directives. Voilà, quand on parle de traîtrise, etc. Si elle nous écoute, la carte sera posée face cachée. Donc, elle et moi, savons ce qui a été joué, les autres non. Si elle ne suit pas ce que je lui ai demandé, la carte sera jouée face visible. Donc, à la vue et au su de tout le monde. Et c'est comme ça que petit à petit, puisqu'on a des objectifs en commun, comme on en a 3 chacun, il n'y a pas autant de personnes, il n'y aurait pas 3 fois 6 personnages, on en a en commun, donc c'est comme ça, petit à petit, qu'on va savoir avec qui s'allier ou pas. Et ça, c'est très chouette. Ça, le moment où on comprend...
S'allier parfois sur juste un personnage, parce on a tous mathématiquement un perso en commun avec tout le monde.
Avec chacune des personnes autour de la table. Donc, il faudrait arriver à trouver nos 3 alliés pour chacun des persos. Sauf qu'on joue que carte, on n'a pas le temps, donc on va un peu, des fois, au plus pressé ou au plus évident. Mais quand on trouve la personne et qu'on se comprend, ça c'est vraiment délicieux. Ou quand on arrive à bluffer quelqu'un et dire tiens, mais sur tel personnage, alors que c'est pas du tout, on sait pas sur celui-là qu'on veut que la personne suit notre bluff, ça aussi c'est délicieux. Donc c'est un jeu très court en règles, très vite pris en main. D'ailleurs, on l'a pris en main tout seul, on n'avait pas d'animateur qui nous l'a expliqué. Il est venu après, je m'étais pas gouré sur les règles. Chapeau Elodie. Et derrière, avec des chouettes sensations, des moments de traîtrise, des moments où on râle un peu, des moments du bon coup, là, où on se comprend, où il y a cette espèce de connivence qui se met en place. Et moi qui aime pas trop les jeux de traîtrise, etc., moi je l'ai trouvé assez léger, assez chaotique, pour vraiment y prendre énormément de plaisir à ce petit jeu, ce petit Mad. Puis bon, son nom, il n'y a pas à dire, quoi, mais il est canon, quoi.
Et pourquoi Mad? Qu'est-ce que ça veut dire?
Ça veut dire... Manipulation, alliance et du prix.
Chacun en tirera les conclusions qu'il veut. Il n'y a pas de... On ne sait pas.
Là, ce qui est vraiment... En fait, le truc, c'est que c'est le genre de jeu, t'as l'impression d'en avoir vu 10 000. Mais il y a quelques petits trucs qui sont vraiment bien faits et qui changent tout. Ce côté, quand tu donnes la carte à quelqu'un, cette personne-là, elle regarde la carte. Ça, c'est important quand même. Parce que typiquement, dans l'explication de règles, moi, je n'avais pas saisi ce truc-là. Donc, je le rappelle pour les gens qui n'ont pas forcément... des fois on zappe des trucs, tu l'as bien dit, mais on voit la carte, donc du coup on sait, et là il y a vraiment cette cohérence, ces secrets entre les deux personnes. Moi j'adore ce genre de jeu dans lequel tu passes la carte et je fais tiens Peter, est-ce que tu voudrais bien s'il te plaît mettre cette carte là sous le général. Tu vois, il y a ce petit truc et tu te regardes vraiment comme ça, et il y a un truc qui se crée entre les deux joueurs. Il y a vraiment quelque chose qui se crée à ce moment là, une forte connivence, et là il sait la carte que t'as, ok, et là t'attends sa réaction. Et effectivement, c'est là que quand tu dis, tu vois, t'aimes pas trop les jeux de traîtrise, etc. Mais c'est pas de la traîtrise, en fait. Même s'ils décident de la mettre ailleurs, tu fais, ah, oh, merde, tu vois. Et là, t'as ce petit ascenseur émotionnel où t'es dans une connivence, t'es en train de créer un truc, t'es dans une petite bulle avec quelqu'un, et là, il la met ailleurs. Tu... Et des fois, ça peut être quand même bien, parce que finalement, ça peut être un perso où, soit tu t'en fous, soit, bon, voilà. Et quand il la met vraiment au même endroit que toi, là, c'est.
Ah oui, ton
petit clin d'œil, tu sais.
Il joue vraiment.
Et à tous les autres qui te regardent.
Il la joue vraiment en connaissance de cause.
Ouais, il la joue en connaissance de cause, ouais. C'est important parce qu'effectivement, des fois, il y a des jeux comme ça où finalement, tu joues, mais sans éléments vraiment de, sur lesquels t'accrocher et tout. Mais là, en fait, petit à petit, c'est des indices. Ok, lui, il veut jouer là. Et il y a de la mémoire qui intervient quand même. C'est pas toujours évident, ça. Parce qu'en fait, idéalement, il faut se rappeler. Ok, moi, je voulais jouer sur la princesse, mais en fait, Peter, il est allé le mettre sur le général. Donc bon, il l'a mis sur le général. Ok, on le voit, machin, très bien. Mais hein, attends, Sirius, il voulait jouer cette carte-là que maintenant tout le monde voit. Sur la princesse. Donc du coup, on sait tout de suite que oui, je voulais jouer sur la princesse ou non, selon la carte, si elle est positive ou négative, quoi. Donc il y a vraiment des éléments sur lesquels on s'accroche et c'est ce qui fait que le jeu, il est. Moi aussi, j'ai trouvé ça intéressant. Hein.
Et on va jouer deux manches et à la deuxième manche, on garde. Donc on a 9 cartes en tout. On en jouera 8 sur le jeu. Les 4 premières cartes qu'on a jouées à la première manche resteront face visible. Donc ceux qui veulent calculer, moi j'en suis complètement incapable, j'ai pas envie en fait. J'en serais peut-être capable, mais j'en ai pas envie. Peuvent déduire les cartes qui peuvent encore être jouées au deuxième tour. Et ça, je pense, c'est aussi assez intéressant. Et on double le nombre de points sur la deuxième manche. Ça, par contre, moins intéressant. Parce que ça fait la première manche, elle sert pas à grand chose. Moi, j'avais fait une jolie première manche. Une moins belle deuxième manche. J'ai fini à moins 2 sur ma deuxième manche.
Tu peux dire.
Et du coup, bah, voilà, ceux qui avaient fait une première manche bof, mais une belle deuxième manche, bah, s'envolent. Et du coup, ça peut être un petit peu frustrant quand même. Parce que qu'on joue la même façon.
C'est un peu artificiel. En fait, on comprend que c'est pour un peu de catch-up, tu vois, dire aussi, bon, bah, même si j'ai fait une sale manche 1, je peux encore me rattraper, je peux encore gagner, tu vois. Mais ça fait un peu artificiel, quoi.
Mais là, moi, je vais faire un autre clin d'œil à match. Si je rejoue à ce jeu, je ferai un faites vos jeux, avec une petite variante pour dire ce doublement de points là. Et donc, c'était Mad, un jeu de Thomas Dagenais L'Espérance, illustré par Pablo Hernandez et sorti chez Locomuse.
Merci Elodie. Je vais garder la parole pour vous parler de Vision, un jeu qu'on a pu essayer à 5 autour de la table, il me semble. On s'est arrêté parce qu'il était beau. Bon sang qu'il est beau ce jeu, illustré par Sepio, couleur.
C'est beau.
Avec des cartes et du vernis sélectif qui brillent, c'est magnifique.
Oh, c'est beau.
C'est un jeu de Bruno Catala et Florian Siriex et illustré par Sepio. Ça sort chez Olemain Game et c'est un jeu où chaque carte... Alors, je vous refais un peu le pitch. Nous sommes
c'est beau, hein, t'as dit, elles sont belles les cartes.
Ah, oui, et c'est des belles cartes, hein. Ouais. Et donc, nous sommes en train de reconstituer nos rêves, donc jusqu'à 2 rêves. Et en fait, chaque rêve, ça va être une ligne de cartes que l'on va poser devant nous. Ces cartes, elles ont deux caractéristiques. La couleur, donc qui représente le fond, un paysage coloré avec 5 couleurs, il me semble. Ou
un beau paysage coloré.
Oui, elles sont belles, très très belles.
Et des beaux rêves.
Ouais. Et en plus de cette couleur, on a un picto qui va varier. Donc, vous comprendrez que vous avez 5 couleurs, 5 pictos, voilà. Et vous choisissez donc des cartes qui sont comme ça dans une rivière. À son tour, on va poser une carte. Donc, soit on continue un rêve qu'on a commencé, soit on ouvre son deuxième rêve. Une fois qu'on a nos deux rêves d'ouvert, eh ben, il faut poser dessus. Pour avoir le droit de poser une carte, il faut qu'elle ait un élément en commun avec la carte précédente, ou la couleur, ou le picto. Si dans votre main, vous avez rien qui correspond, vous avez encore la possibilité de jouer la carte face cachée. Mais elle est belle aussi, même la face cachée d'ailleurs. Et en faisant ça, vous pouvez aller piocher une carte chez quelqu'un. Eh oui, chez vos petits camarades. Donc, il y a un petit peu comme ça de « je vais l'embêter lui ou elle », on ne sait pas trop pourquoi d'ailleurs, parce que bon, on ne sait pas trop ce qu'ils ont en main au début et même un peu tout le temps d'ailleurs, parce qu'on ne regarde pas. Et à la fin de votre tour, vous allez piocher une carte dans la rivière qui est au milieu de la table. Donc, il y a 5 cartes visibles. Et cette carte, et cette rivière, du moins, on ne la regarnit pas. Elle sera regarnie quand elle sera vide. Donc, si vous êtes 5e joueur, ben, vous prenez ce qui reste. Et puis, ben, le suivant, eh ben, il aura à nouveau une rivière complète. Voilà. Quand vous arrivez à faire dans votre rêve exactement la même carte qu'une carte qui a été jouée avant, donc le fond et le picto, vous déclenchez un effet qui vous fait rejouer. Et deuxième effet qui peut y arriver, c'est si dans vos deux rêves, vous arrivez à faire matcher au même rang le même picto ou la même couleur que la carte qu'il y a au-dessus ou en dessous, donc dans l'autre rêve, ben là, vous allez avancer sur une petite piste, je sais plus comment elle s'appelle, mais qui, en gros, va monter en points et vous permettre de mettre une carte de plus dans la rivière.
C'est pas la piste de réveil?
En tout cas, il y a un réveil au bout. Ouais. Si on arrive au bout de cette piste, ça déclenche la fin. Donc, vous faites tout ça, un certain nombre de tours, soit parce que quelqu'un...
Les reflets.
Oui, c'est un effet de reflet, effectivement. Donc, on va jouer comme ça, à tour de rôle, où on va poser une carte, deux cartes, repiocher, peut-être poser un cauchemar, aller piquer une carte chez quelqu'un parce qu'on a vu qu'il y a trois tours, il a pris une carte qui peut nous intéresser, ou peut-être trop l'intéresser, mais on sait pas trop où elle est, donc on va piocher comme ça chez quelqu'un. C'est très joli, la mécanique marche bien, mais en gros, en une partie, on en a un peu fait le tour, quoi.
On peut dire que ça fait pas rêver?
Ça fait pas rêver, ça nous a endormi un petit peu, peut-être aussi, peut-être non, mais on y allait effectivement parce que le jeu présente très bien. On l'a dit que c'était beau. Ouais, on l'a dit, je crois, il me semble. Mais et au final,
c'est vous qui l'avez dit. Hein. On remarquera que je l'ai pas encore dit. Hein.
Ah ouais, ça t'a
même
pas
si plu. Je suis complètement d'accord avec vous. Non, c'est
okay,
magnifique.
Ok, tu m'as fait peur. Ouf.
Mais d'habitude, c'est toujours moi qu'on accuse de juste trouver d'être un peu futile et de trouver juste les jeux jolis.
Non, alors
non, mais c'est vrai que c'est beau.
On peut dire que le jeu est magnifiquement édité, que la mécanique tourne bien. Mais qu'on en a vite fait. En tout cas, moi, j'en ai vite fait le tour. J'en ai fait une partie. Je suis content d'avoir fait. Hein. Faut pas penser que voilà, j'ai pas apprécié. J'ai apprécié mon temps. Ça a duré un quart d'heure. Est-ce que j'ai envie d'y rejouer? Clairement, non. Mais et vous?
Alors moi, j'ai pas du tout apprécié ma partie parce que j'ai eu l'impression de subir de tout le temps, de jamais récupérer les cartes qui m'intéressaient. Faut dire que je jouais juste derrière Peter qui arrivait à poser je sais pas combien de cartes et qui du coup m'en laissait plus qu'une qui était pas du tout celle que je voulais. Non mais j'ai bien compris qu'il faisait pas ça pour me coquiner, qu'il jouait les cartes qui l'intéressaient le plus, mais
bah t'as pas le choix.
Et j'ai eu l'impression d'avoir zéro choix. Je vous voyais poser une multitude de cartes. Moi j'avais juste moi j'ai fait un rêve très court. Hein. Mes deux rêves ont été vraiment très je me suis vite réveillée et c'est moi qui le dis. Hein. Des belles cartes ça suffit pas à faire un bon jeu. Et je suis contente d'y avoir joué ici parce que j'aurais pu, parce que vraiment c'est pio. C'est Pio, si vous nous écoutez, vous faites un boulot incroyable. Continuez à illustrer des jeux. Mais c'est dommage. Et puis même sur la boîte, enfin, Catala, Syriac, c'est pas forcément c'est des auteurs qui sont solides, quoi.
Mm.
Et là, je trouve qu'il y a vraiment quelque chose qui pêche là-dedans et qui fait pas abouti et qui est hyper frustrant. Alors que moi, la frustration, c'est pas forcément un truc qui me gêne. J'aime le chaos. Enfin, voilà, tant que vous nous écoutez, vous savez, hein, un peu les goûts des uns des autres. Pas maîtriser un truc qui est du revirement de situation et tout, mais là j'ai vraiment eu l'impression d'avoir aucun choix pendant toute ma partie.
Je voulais juste ajouter aussi que pour moi c'était un jeu de collection parce que finalement on part dans une direction et on va essayer de pas en sortir parce que les symboles et les couleurs d'un même rêve vont se multiplier, donc on a tout intérêt à aller dans une seule direction. Et du fait qu'on va dans une seule direction, on prend toutes les cartes du coup ne vont pas être prises par ses adversaires, donc elles vont nous rester dans la rivière, donc finalement on va les avoir à disposition plus facilement si on arrive à se lancer dans une collection qui n'est pas faite aussi par un adversaire, et c'est ce qui m'est arrivé. Donc du coup les cartes ne vous intéressaient pas, donc moi j'avais qu'à les cueillir finalement. Sur le côté matériel aussi, moi j'ai regretté que les couleurs qui sont très importantes dans ce jeu, qui sont effectivement jolies, mais ça ne suffit pas à bien les distinguer, et ceux qui ont des difficultés avec la vision des couleurs, il n'y a pas de symbole qui permet d'attacher la couleur facilement. Il y a un élément du décor qui est en bas à gauche de la carte, enfin ou tout le bas de la carte même, qui est similaire pour toutes les cartes d'une même couleur, mais c'est pas facile, c'est pas intuitif de s'y raccrocher. Il y a des petits objets sur chaque carte qui sont embossés en plus du vernis sélectif, donc ça fait aussi son petit effet, moi je trouve, et c'est assez agréable pour le toucher des mains, et je sais pas si ça peut pas servir pour ceux qui ont des difficultés visuelles aussi, ce côté embossage pour repérer les symboles qui correspondent aux couleurs, en fait, qui correspondent aux symboles,
mais du coup pas aux couleurs, donc du coup
pas aux couleurs, mais
ouais. Oui, je sais pas, parce que c'est de l'embossage, c'est le vernis en fait, c'est la couche de vernis qui fait l'embossage, je sais pas s'ils ont cherché. Non, c'est en fait ils mettent beaucoup de vernis qui fait une boule. Enfin bref, en fait voilà, pour moi l'embossage il est absolument pas destiné aux malvoyants ou autres, hein. C'est vraiment pour faire briller la carte et qu'elle soit jolie, quoi. Mais En tout cas, oui, on avait demandé, nous, effectivement, au début, s'il y avait moyen de repérer les couleurs pour ces problèmes de daltonisme, mais même le démonstrateur ne savait pas, et c'est en fait, en les empilant, on s'est rendu compte qu'il y avait une forme qui revenait, qui était en bas à droite, quoi, mais en bas à gauche. Donc voilà, c'était Vision de Bruno Catala et Florian Siriex, illustré par Sepio, chez Ole Mingem. Bon, si vous voulez y jouer pour voir des belles cartes, allez-y, c'est sympa, maintenant vous êtes prévenus. Voilà. Et nous allons continuer avec Cyrus. Tu as pu jouer à un jeu de Richard Garfield.
Et ouais, incroyable. On était en train de, non, on n'était pas en train, enfin moi j'étais pas en train de jouer, mais vous aviez fini une partie là et avec Elodie, Caducé et Kurt. Et je me retourne et là tu pas qu'il y a un jeu de duel. Et là, qu'est-ce que je vois? Richard Garfield. Oh, on s'en ne fait qu'un tour. Est-ce que quelqu'un veut se fighter avec moi? Et là, Elodie a dit, mais oui, j'adore ça. Fightons-nous. Donc on est allé se fighter. Voilà.
Même si j'ai pas dit, j'ai envie de te mettre sur la gueule, Cyrus.
Ah, tout non, comme ça, ouais. Ouais, comme bah, ça. Et j'essaie de rendre les choses un peu plus.
Poli, c'est. Mais il y a rien de poli dans les jeux d'affrontement.
Eh oui, bon, on s'est foutu sur la gueule, quoi. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un jeu d'affrontement. Il y a des, on a un deck de cartes qui est préconstruit. Voilà, dans la boîte, il y a trois decks. Ça joue qu'à deux, mais il y a trois decks. On prend un deck, pouf, on mélange, hop, on pioche des cartes. C'est parti. Le principe du jeu, c'est que c'est un système d'enchères, si je puis dire, enfin de majorité. En gros, je pose des cartes, ça met des valeurs. Il faut que ensuite Elodie, elle va jouer, et il faut qu'elle dépasse ma valeur avec la force de ces cartes réunies. Et ensuite c'est à moi et ainsi de suite. Et on va comme ça essayer de monter. Sachant qu'on n'a pas le droit de surmonter, c'est-à-dire que dès qu'on a dépassé la valeur de l'adversaire, on ne peut plus jouer, ça passe au suivant. Et évidemment il y a des effets dans tous les sens et c'est ça qui est intéressant, et les effets sont intéressants, mais surtout ce qu'il y a, c'est que à un moment on peut décider de concéder. On dit ok, on s'arrête là, et au début de la partie il y a un jeton qui est en mise, d'accord, donc si je concède à ce moment là bah, Elodie elle gagne un point, il en faut 6 pour gagner la partie, et dans le cours de la partie il y a des effets qui vont permettre d'augmenter la mise. Comment ils expliquent, on peut lancer un défi,
On
lance un défi et ça fait monter la mise. Donc ça fait monter éventuellement la mise de 1. À ce moment-là, donc soit Elodie elle accepte le défi et donc on monte la mise pour la manche, soit elle refuse et dans ce cas-là, j'empoche un point. Même s'il y avait dans la mise 4 points. D'accord? Donc c'est une espèce de moindre défaite, quoi. Ouais, c'est ça. Donc en fait quelque part, là Garfield il allait rechercher ce principe qu'on trouvait dans Bestioles en guerre, où plus on avançait dans la partie et plus la mise montait, mais là elle montait automatiquement, là il va falloir la déclencher. Ça se rapproche un peu plus de ce qu'on trouve dans Marvel Snap, qui est un jeu vidéo hein, qui est très inspiré de Bestioles en guerre hein, finalement, auquel je joue encore. Donc c'est dire quand même l'intérêt que j'y trouve quand même avec cette mécanique de allez vas-y on lance le snap et donc là vas-y on double la mise, ce que l'autre peut faire aussi. Et bah c'est bien fait en fait. On voit qu'il a de la bouteille en fait, Richard Garfield là-dedans hein, les jeux de cartes à effet, bah ça marche. C'est voilà, j'attends la sortie maintenant.
Mais là j'en peux plus, la tension est à son comble. C'est quoi le nom du jeu?
Il s'appelle Sky Rift. Je sais pas ce que ça veut dire. Ça s'appelle Sky Rift, il y aura deux boîtes, donc du coup on a joué avec un deck de chacune des deux boîtes en fait, on a joué un truc mixé.
On a joué avec les personnages mignons. Ouais, moi j'avais un chat boubou dans mon deck. Et le chat boubou, il arrive, il est énorme, il a une force énorme et il va s'épuiser. Donc on voit bien le chat qui joue avec sa pelote de laine puis qu'à la fin, il est tout crevé et qui finit par dormir. Et du coup, il fait peur. Tu poses le chat boubou sans taper sur la table, t'en imposes d'un coup. Et oui, il y a tous ces combos qui sont hyper satisfaisants, il y a du bluff évidemment comme tout ce genre de jeu où on se dit tiens, je vais faire croire que je peux encore jouer. En fait, je peux pas vraiment.
Il y a un côté attrition. Croise
les doigts
en fait,
pour que l'autre puisse, qui concède, en fait. Et on a fini, vraiment sur le fil. Cyrus a gagné la partie, mais on était vraiment,
Avec un all-in.
Je pense qu'avec, ouais. Je pense que là, j'avais une carte de plus, ça passait. Et du coup, t'as énormément d'émotions, de retournements de situation. Et accessible aussi à des personnes qui sont pas habituées aux jeux de cartes à collectionner, parce qu'on est franchement dans cet univers-là. D'ailleurs, c'est tout le gars qui nous l'a expliqué, il nous a dit si vous jouez à Magic, c'est exactement le même vocabulaire, cimetière, détruire, etc. J'ai joué à Magic il y a 20 ans, j'y ai pas rejoué depuis. Et pourtant, je l'ai trouvé hyper accessible, mais en sentant quand même qu'il y en avait sous le pied et qu'avait vraiment une grande envie d'y retourner, quoi.
Ouais, ouais. C'est un jeu qui joue sur le biais des coups irrécupérables, tu sais. Ce côté, tu sais, t'as de l'attrition qui se crée parce qu'en fait, tu pioches pas de cartes. Enfin, il faut que t'aies des effets pour piocher des cartes. Ou que tu mettes fin à la manche. Là, on pioche chacun 3 cartes, ce qui est pas énorme quand même dans le jeu. Mais et donc il y a des moments, bah il vaut mieux dire, ok, laisse tomber là, l'autre il s'est vidé pas mal, c'est bien, hop il s'est un petit peu réduit, allez peut-être que je vais pouvoir me refaire derrière, finalement je vais peut-être lâcher qu'un point, donc ouais non c'est vraiment très chouette.
Ah, j'ai trouvé qu'il y avait des sensations à la Gwent dans les jeux qui étaient sortis cette année, dans cette idée de jouer. Et bah t'as un nombre limité de cartes et donc à un moment faut t'arrêter aussi, concéder, il y a vraiment des liens je trouve.
Ok, donc c'était Sky Rift, donc il y aura 2 versions différentes qui vont sortir pour Essen, donc c'est pas pour tout de suite malheureusement, c'est un jeu de Richard Garfield, on l'a dit, il y a plusieurs illustrateurs, et en plus c'est pas forcément les mêmes selon les boîtes, c'est édité chez Ori Games, ça joue à 2 joueurs et joueuses exclusivement.
Très bien, merci Cyrus, on passe maintenant à Kurt.
Il était une fois une belle princesse qui est tombée amoureuse d'un prince, non. Pas d'un prince, elle est tombée amoureuse d'un troll. C'est pas grave. Je vais vous parler d'un jeu qui s'appelle Le Petit Théâtre. Le Petit Théâtre, c'est un jeu coopératif. On joue tous ensemble à campagne. Ce sont des missions qui sont sous la forme de pièces de théâtre. On met en place une pièce de théâtre avec une introduction, un premier acte, une première scène, un premier acte, une deuxième scène, etc., 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 jusqu'à la conclusion. Chaque acte et chaque scène met en place la scène du théâtre. Donc sur cette scène, il y a une princesse, un troll, des rochers, des sapins. Et il faut tout faire pour que la princesse et le troll se rejoignent pour pouvoir vivre leur amour. Donc je disais, c'est un jeu coopératif. On a chacun en carte des mains avec des personnages, personnages qui correspondent aux personnages qui sont sur la scène. On a aussi des cartes coups de théâtre, j'y reviendrai. Et sur la carte et sur la table, il y a des verbes. Verbes qui vont être déplacés, poussés, contourner, etc. Et donc le but du jeu, c'est de déplacer les éléments qui sont sur la scène jusqu'à ce que nos deux amoureux se rejoignent. Donc il va falloir que je pose moi la princesse. La princesse déplace, quelqu'un d'autre va jouer le rocher, donc la princesse va déplacer le rocher. Donc on déplace tout ça physiquement jusqu'à ce que on ait atteint notre but, que la princesse et le troll, ou le troll et la princesse se rejoignent. Une fois que c'est fait, on ouvre la deuxième enveloppe qui nous dit, eh ben là il y a des nouveaux personnages, il y a des nouvelles cartes, etc., etc. Ou certaines cartes qu'on a jouées là, ça va nous dire, ces cartes-là, ces personnages-là, vous en aurez plus besoin. Mettez-les dans 3 enveloppes et reviendront plus tard. Voilà, tout simplement. C'est un jeu qui peut paraître enfantin, qui est assez enfantin, il est donné pour 8 ans. Cyrus regrette même qu'il ne le soit pas à partir de 6.
Oui, en fait, je trouve que le jeu, il arrive à planter un super décorum. C'est-à-dire qu'il y a des bandes son pour faire les pièces de théâtre qui sont jouées par un acteur et qui la joue vraiment un petit peu cliché quoi, donc il va faire et la princesse dit oh là 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 là, j'aimerais vraiment retrouver mon troll, tu vois, enfin des trucs comme ça quoi, et je le fais pas aussi bien que lui évidemment, et du coup il y a un habillage que je trouve vraiment fantastique et j'aurais aimé que ce jeu il puisse jouer plus jeune parce que je pense que ça aurait vraiment cartonné pour des enfants en dessous de 8 ans. C'est pas pour ça que des enfants de 8 ans aimeront pas hein. Moi je vois très bien mes enfants de 8 11 ans même y jouer, il y a pas de souci. Mais la mécanique effectivement est un peu complexe. C'est quand même de la logique. Je sais pas si vous imaginez, moi ça me fait penser à ces jeux vidéo dans lesquels il faut pousser des blocs pour pouvoir sortir, vous savez ce genre de truc, je sais pas, ça doit avoir un nom hein, ce genre. Ça fait penser aussi à Baba Is You, j'ai jamais joué, mais je pense que c'est très... À mon avis, il y a une inspiration pas cachée.
Un côté puzzle, oui, clairement.
Ah, ouais. C'est des petits puzzles à résoudre comme ça, et donc, bon, vous commencez à imaginer que c'est pas trivial quand même pour des enfants, et donc que 8 ans, effectivement, oui, je le comprends. Voilà, donc c'est un jeu assez enchanteur, je trouve, qui m'attire beaucoup. Après, la mécanique, c'est quand même très froid, quoi, hein. Voilà, je sais pas, ça me met un petit peu dans un sentiment un peu ambivalent sur ce jeu.
Bah c'est vrai que quand on a fini la première enveloppe, on s'est tous regardés en se disant on a quand même envie, le gars il nous a fait allez-y faites la deuxième enveloppe,
ah ouais,
faites-vous
plaisir.
On a fait
la deuxième, ouais.
On a fait la deuxième enveloppe, c'est vrai que ça rajoutait, je vais pas spoiler, mais ça rajoute des personnages qui ont des nouveaux effets ou des absences d'effets, justement, qui rapportent un petit quelque chose. Et je pense que les enveloppes, au fur et à mesure, vont toutes rapporter un petit quelque chose. Et ce qui est intéressant, c'est que des personnages qu'on a vus au début, ça va nous dire, remettez-les dans trois enveloppes, il reviendra plus tard, ou lui reviendra pas, vous inquiétez pas, etc. Et puis, tout est remettable en place. De toute façon, il nous disait, vous remettez tout en place, et c'est reparti de zéro, vous arrêtez à tel endroit, vous mettez l'intercalaire, vous reprenez la semaine prochaine. Nickel. Typiquement, le type de jeu à campagne que moi, je pourrais apprécier.
Ben, je pense que j'apprécierais bien, mais j'ai aussi peur de l'effet leader dans ce genre de jeu. Je pense que c'est difficile à masquer, surtout avec des enfants, et du fait de la complexité quand même logique.
Oui. Non, parce que même nous qui sommes quand même des adultes qui jouent un peu, à un moment, c'est bon. Alors une fois qu'on sait, mais on s'est posé des questions. C'est genre cet effet-là, on peut le faire tout le temps, ou faut vraiment typiquement que tel personnage et tel personnage ils soient à côté. Enfin, vous voyez, c'est des petits détails, mais ça a son importance. Une fois qu'on sait, on sait faire. Voilà, donc une expérience très plaisante, moi qui me donne vraiment envie d'y retourner et de creuser, de voir ce que ça pourrait donner la suite. Donc c'est un jeu qui s'appelle Le Petit Théâtre, Il était une fois, un jeu de Quentin Guidotti et de Grisha German, illustré par Olivier De Rueto, et c'est édité par Kodama Games.
Kodama Games, qui est le nouveau nom des Lumberjacks.
C'est ça.
C'est voilà, ça.
Qui avait fait croire qu'ils coulaient, et puis qui ont changé de nom d'un coup. Une communication qui a été quand même un petit peu hasardeuse.
C'est ça.
Vu l'histoire, l'historique de certaines boîtes qui coulent pour de vrai. Donc, faire croire, jouer sur la petite corde sensible comme ça, de dire, on va plus être là. Moi, j'avoue que j'étais un peu triste.
Mais je crois qu'ils s'en sont rendus compte, hein.
Oui, parce que après, ils
voulaient laisser traîner la blague 24 heures, puis ils se sont rendus compte au bout de 3 heures que c'était pas drôle pour tout le monde. Donc, voilà. Ils ont vite enchaîné.
Ils se sont rendus compte de l'erreur, mais.
Où est la blague, en fait, tu vois.
Voilà.
En tout cas, merci Kurtz pour cette présentation. Et on va tous emballer un petit peu nos jeux de cartes et nos polyomino là, parce qu'il y a Lana qui arrive. Et elle a un jeu qui tient sur deux tables. Alors poussez-vous, elle a besoin de place là.
Wow.
Poussez-vous un peu, ouais, c'est du gros jeu. Ce gros jeu, il n'est pas encore sorti, il va sortir en juin et il s'appelle Revenant. C'est en effet un gros jeu dans l'univers de Voidfall, où tous ensemble, on va chercher à sauver le gros vaisseau qui s'appelle Revenant. Mais bon, le coopératif s'arrête là, c'est celui qui a le plus de points à la fin qui gagne, hein, soyons clairs. Je vous pose un petit peu le décor, de la pose d'ouvrier, 4 manches, des cartes avec plein de pouvoirs, un plateau central énorme qui représente l'espace, mais bon, l'espace c'est grand, et on va y déplacer plein de vaisseaux. Un plateau perso avec une faction asymétrique, hein, on commence tous avec un petit pouvoir, et des pistes qu'on va chercher à faire monter. Clairement, pour moi, c'est tous les ingrédients qu'il faut pour un bon gros jeu. Alors, on a fait que sur les 4, parce que c'est des grosses règles, bien touffues, et ça prend du temps. Et 2 manches, j'avoue, c'est à peine assez pour assimiler toute l'icono qu'il y a sur ce jeu. C'est très, très dense. Alors, il paraît que pour ceux qui connaissent Voidfall, ils ont quelques repères. Nous, on les avait pas. C'était un peu dur à ingurgiter. En revanche, 2 manches, ça a été, pour moi en tout cas, assez pour sentir le moteur qui démarre. Et dans ce jeu, il y a également le système de scoring qui me paraît très intéressant. En fait, il va dépendre de son avancée sur les pistes et du nombre de vaisseaux encore existants sur le plateau. Donc on va avoir de l'interaction entre les joueurs qui va être non pas en mode « pendant ta face », mais plutôt « pense sur ton scoring ». Enfin, sur le scoring que tu vas faire, ou plutôt que je crois que tu vas faire, parce qu'on a aussi quelques cartes cachées qui peuvent faire changer la donne. Voilà ce que j'en ai découvert. Je reste sur ma faim. J'avoue, j'ai très envie d'y rejouer, même si il faudra se recogner les règles et il faudra se recogner toute l'icono. Mais je vois dans ce jeu un beau potentiel. Et un beau potentiel d'un gros jeu de la gamme expert de chez Super Meeple.
T'es pas familière de l'univers, toi ?
Pas Voidfall, non, ouais. Je connaissais pas.
Futur Diamant d'Or ?
Je ne sais pas. En tout cas, prétendant, pourquoi pas. Ça fait partie de ces... Alors, je sais pas si c'est exactement de l'Eurogame. Alors, t'as les pistes qui montent dans tous les sens et tout ça. C'est pas de la méritrage, mais t'as quand même de la destruction de vaisseaux, mais pas les vaisseaux des autres. Mais tu peux gagner des points sur certaines pistes si tu vas cracher certains vaisseaux, et si tu craches certains vaisseaux ennemis, du coup tu défends un peu les couleurs des vaisseaux que tu veux sauver, qui peuvent t'aider pour ton scoring. Il y a toute une imbrication. Alors en deux manches c'est trop court pour se rendre compte de cette imbrication, mais moi des cartes avec plein de pouvoirs dans tous les sens, et j'en ai pas vu pas la moitié, pas un tiers, pas un sixième. Ah, j'ai qu'une envie, c'est d'aller les faire tourner, les découvrir et voir jusqu'où ça peut aller.
Ouais, c'est sûr que l'icono est un gros frein sur une première partie, voire peut-être deux, parce que
elle est
lourde. On sent qu'ils n'ont pas voulu mettre de texte pour une notion d'internationalisation. Mais quand tu as un picto que tu comprends pas, deux points te donne un picto que tu comprends pas. C'est comme...
Alors d'habitude, ouais, ils arrivent à synthétiser ça sur, ouais, une page de règles, hein, sur l'arrière du livret de règles. Là, ça suffisait pas. Il faut ouvrir le livret et ça tient sur deux pages complètes. Hein,
ouais. Oui.
Il y en a lourd.
Et ça, c'est que les icônes, parce qu'après les effets de cartes, c'est deux autres pages que pour les cartes de frégates, parce qu'après t'as les cartes de second qui sont aussi sur deux. Enfin voilà, il y a un apprentissage qui est assez important, c'est imposant, on va dire, mais on sent le jeu qui, pour moi, a un vrai intérêt, effectivement, cette notion alors c'est des vaisseaux de famille, en fait, il y a cette famille, donc il faut défendre les familles, soutenir les familles, voilà, donc on veut préserver les vaisseaux sur lesquels des familles on est monté, parce que c'est des multiplications à la fin. Et à la fin, quand on casse des vaisseaux, on casse quand même des vaisseaux qui nous intéressent parce qu'on n'a pas trop le choix. Il y a des ennemis qui attaquent, donc voilà. Je vous ai dit qu'il était beau ce jeu aussi, hein.
Hein,
parce
en
que,
même temps,
parce pour... que c'est du Yann O'Toole quand même.
Ouais,
voilà.
C'est Yann O'Toole, mais pour un jeu des sept familles, c'est peut-être un peu lourd.
C'est vrai. Alors, c'est dans l'univers de Voidfall, mais je pense qu'ils n'ont pas pu avoir la licence parce que moi, je le verrais plus dans la thématique sur Battlestar Galactica quand même, parce qu'on a un vaisseau principal entouré de un vaisseau principal entouré de petits vaisseaux, et là il y a des ennemis qui débarquent et les petits vaisseaux ils pètent les petits vaisseaux ennemis parce que sinon ils vont péter le gros vaisseau principal. Bah, je m'excuse, mais voilà, hein, on a fait le pitch.
Et tout à fait, et la possibilité de faire des bons PRL, on n'a pas eu le temps d'aller jusque là, c'est vrai que c'est quelque chose qui est assez important apparemment dans ce jeu là mais nous on n'a pas eu à faire cette action là alors moi je suis un petit peu moins emballé, hein, sur ce jeu là effectivement on a fait que deux manches, donc ça donne pas forcément une représentation du jeu, et notamment on n'a pas fait cette option là cette famille, effectivement c'est beaucoup, ça dilue quand même pas mal les endroits où on va un petit peu se faire concurrence. Il y a beaucoup de secteurs aussi sur la carte de l'espace, hein. Alors l'espace c'est grand effectivement, mais il y a quand même 8 secteurs je crois, hein. plus que ça 8 ou 10
8 autour du vaisseau,
ouais,
qui
sont plus on peut passer au milieu. Bon, il y a pas mal de surcouches effectivement, les plateaux asymétriques. Moi j'ai pas réussi à construire un moteur en deux manches. Alors en deux manches, des fois sur ces gros jeux là on ne fait pas la moitié du jeu en deux manches parce que c'est assez exponentiel, donc je ne sais pas ce qu'aurait donné la troisième et la quatrième manche, mais j'ai pas eu l'impression de bien décoller, donc moi non, j'ai pas forcément envie d'y rejouer quand même à ce jeu là c'est peut-être un peu trop pour moi, pour le coup.
Tu veux dire que t'as pas envie d'y revenir?
Oh là là, bravo. Ce qu'on peut souligner quand même, c'est la volonté d'aider au jeu, parce que tous nos tours de jeu est rappelé sur les plateaux. C'est-à-dire que, alors, encore une fois, avec plein de pictos, mais en gros, dans le tour, on fait ça trois fois, et après, on passe à la phase de machin, on fait ça, on suit cet ordre-là, puis la phase de machin, on suit ça, tout est rappelé au milieu. Mais encore une fois, il faut l'assimiler pour le comprendre.
Et j'en profite juste pour féliciter et remercier les animateurs de Super Meeple qui ont été super. Ils connaissaient toutes les règles par cœur. Je sais pas comment ils font parce que là, franchement, c'est très touffu. Ils étaient sur plusieurs jeux et là, il y a eu un sans faute, hein, j'ai l'impression.
Surtout que l'animateur a fait dit « Moi, j'aime pas les jeux d'espace. »
Mais c'est mon boulot.
C'est ça.
Donc, c'était Revenant, un jeu... alors visez bien entre 90 et 120 minutes, un jeu de Alan Kirby, illustré par Yann O'Toole.
Merci Lana. On passe à Peter. Peter, arrête de chouiner, on t'a dit.
Oh. Oui, je vais faire un jeu beaucoup plus léger, hein, qui est effectivement Chouineur. Donc le titre original, c'est Cry Baby. Donc c'est un jeu de plis compétitif pour 3 à 5 joueurs. Donc on y a joué à 5. Alors, particularité de ce jeu, c'est que les cartes sont toutes divisées en deux dans le sens de la hauteur, un peu comme certaines cartes de 4MX ou du Kingdom Legacy. Y a plusieurs couleurs de cartes, hein. Y en a qui n'ont pas toutes la même importance. Donc, il y a bleu et rouge qui sont les couleurs basses. Après, il y a le jaune qui est le premier atout, le premier niveau d'atout. Et puis, il y a des trois cartes d'un master atout de couleur noire. Donc, au début de la partie, on distribue cette carte, ça va se jouer en 7 plis et 4 manches. Et les cartes, on va devoir choisir si on veut les regarder dans un sens, enfin si on veut les conserver dans un sens ou dans un autre, mais on n'a pas le droit individuellement de changer la configuration de ces cartes. Donc il faut vraiment qu'on fasse un choix parmi deux. Voilà. C'est un jeu de plis où on doit faire un pari sur le nombre de plis, hein, donc à la Skull King un petit peu, et c'est ça qui va nous faire gagner des points. On gagne vraiment beaucoup de points si on arrive à faire le pli, le nombre de plis sur lequel on s'était engagé. On n'a pas le droit de faire deux fois dans la partie le même pari, donc ça permet de resserrer un petit peu les rangs et d'éviter d'abuser du pari à zéro pli, qui est souvent une facilité dans ce genre de jeu. Donc on va pas pouvoir le faire deux fois sur les quatre manches. Et j'en viens à la partie chouinage, hein, qui n'est en fait pas vraiment un choix, mais c'est-à-dire que la personne qui a mis la carte de plus faible valeur sur un tour de pli va être le chouineur, et il a la possibilité pour compenser en quelque sorte, même si quelque part on peut faire un pli en chouinant. On peut gagner le pli et chouiner en même temps. Par exemple, si on a coupé avec un petit atout, enfin un atout de faible valeur et que les autres avaient joué à la couleur. Et dans ce cas-là, on peut soit gagner un point. Alors, un point dans ce jeu-là, c'est vraiment pas beaucoup. Mais sinon, on peut aussi pivoter une carte de son jeu en fonction de son avancement sur le nombre de plis qu'on devait faire. Et ça, c'est plutôt intéressant, moi, j'ai trouvé, de pouvoir comme ça arranger son jeu au cours de la partie, en fonction de là où on en est sur le nombre de plis. Donc j'ai trouvé ça quand même pas mal. Y a peut-être d'autres jeux qui avaient ce genre de mécanique. Moi j'en connaissais pas, mais en tout cas c'était assez agréable.
Ouais, on se posait la question, on le rapprochait d'un Panda Spin, où là tu la retournes, mais c'est quand tu la récupères parce que t'as perdu le pli. Et alors après, un Panda Spin ne joue absolument pas de la même manière, hein. On va faire des pertes ça, mais et tu disais on subit un peu le chouinage, on choisit pas. Mais moi, je trouve qu'on a bien essayé de mettre des petites cartes à des moments, quand même, pour chouiner. Parce que quand tu vois ta main et que ton atout, il est sur la partie basse de ta carte, t'as vite fait envie de le retourner pour te choper une carte avec un atout et puis te débarrasser du bleu qui est quand même assez commun, quoi. Donc, moi, et clairement, autour de la table, on voyait ceux qui essayaient de chouiner en foutant des petites cartes, puis qui, quand quelqu'un mettait une plus petite, chouinait pour de vrai parce que.
oui, mais tu vas essayer de chouiner, mais tu ne peux pas décider vraiment à 100% de chouiner. Tu vas essayer en mettant des cartes bien plus sûr. Petites, mais t'es pas à l'abri que quelqu'un ait une carte encore plus petite que la tienne.
Si t'essayes, c'est bien que tu décides de le faire. Après, le résultat, tu l'as pas forcément, mais c'est bien que t'essayes, donc tu décides de le faire. Moi, j'ai trouvé que c'était un peu, ça manquait un petit peu d'explosivité. Je trouvais ça un peu plan-plan, quoi. Je trouvais ça, un peu sage, en fait. J'ai trouvé la mécanique vraiment sympa, tu vois. Je trouve que c'est bien lissé, c'est bien léché, c'est bien foutu. Mais à la fin, il m'en manque, quoi. Je trouve ça crée pas grand chose autour de la table. Ça râle pas tant que ça. Ça.
C'est un peu pas. Trop gentil.
C'est trop gentil.
Ouais.
Alors
c'est
moi,
trop...
je trouve que
en fait, les paris, t'as un peu de latitude. T'as un plus un moins un à chaque fois.
Oui, parce qu'en fait, si tu vises deux plis, peu importe quoi que tu vises, en fait. Quoi que tu vises, si tu réussis ça, tu vas marquer 8 points. Et si tu fais un de plus ou un de moins, tu vas marquer seulement 3 points. Mais tu marques quelque chose. Ou dans un jeu comme dans Skull King, si tu rates, tout de suite, c'est du point négatif. Donc là, c'est un petit peu gentil, reste ça. Et puis, il y a aussi le côté, comme je sais pas, moi, je suis pas d'accord avec toi, où le fait du chouineur, tu dis que un point en plus, c'est pas grand-chose. Je trouve que c'est pas si mal. Des fois, le fait de retourner une carte, ça va pas te changer la vie. Autant prendre le point. Bon, c'est pas grand-chose, mais...
Mais là encore, ça rajoute de la gentillesse au jeu, cette latitude de choisir si tu prends le point ou si tu retournes. Je suis assez d'accord sur le fait dans le paysage des jeux de plis qui est pléthorique, en boutique, on en soit bientôt. On pourrait en rentrer un par semaine cette année. Et du coup, on n'a pas des gens qui ont envie d'avoir 50 jeux de plis chez eux, à part Flavien. Oui, on a tous pensé. Je vous ai tous vu vous approcher des micros en même temps.
Il vient pas à ta boutique.
Mais non, il est trop loin. Mais des Flaviens, personnellement, à la boutique, j'en ai pas. Ou j'en ai peut-être un. Mais du coup, c'est compliqué. C'est compliqué d'aller. On va pas remplir nos étalages de ces jeux de plis qui se plus soient entre eux, quoi. Qui font doublon. Enfin, moi, je trouve qu'un Skull King est vachement plus efficace sur un jeu qui va rappeler le Whist.
Mais justement, tu vois, peut-être que ça pourra plaire à des personnes qui chouinent justement sur des jeux de plis à annonce de, enfin, à Paris. Tu vois, tous ces jeux de plis à Paris qui sont quand même toujours un peu compliqués à gérer, où tu y vas un petit peu au culot à chaque fois, et t'as toujours des personnes qui n'aiment pas trop ça. Peut-être qu'en le rendant un petit peu plus gentil, mais en gardant ce système de Paris, ça peut avoir son public aussi.
Bah là, on a le Pili Pili qui est sorti, et qui démonte tout. Hein. En fait, ce qui est assez rigolo sur Pili Pili, c'est que les ludicaires, on n'en a pas entendu parler. Et d'un coup, on a eu plein de gens qui sont venus le réclamer en boutique. On ne sait pas d'où il est sorti.
TikTok,
a priori. Mais pas des influenceurs, forcément, jeux de société, parce que je fais une veille numérique. Et là, aucune idée d'où est notre boutique, mais pas que nous, quoi. On est plein à dire la même chose. Et celui-là démonte tout, quoi. Donc, je pense que ça va être au détriment de Schwiner.
Bon, je conclue. Donc, Schwiner, l'auteur, c'est Frédéric Voigna. Les illustrations, c'est Crocotam et l'éditeur, c'est Blam.
Merci, Peter. Je vais maintenant vous parler de Kumata. Kumata, c'est un jeu... Alors merde, on peut pas dire abstrait, parce que ça se joue à 4. En fait, c'est un jeu de Cosmo Ludo. C'est pour ça que je cherche à dire abstrait. On est un peu habitué avec eux, hein, leur jeu à 2, très beau, bien fini, dans une collection... qui donne envie de faire une collection, hein. Et en fait, il s'écarte un peu de cette ligne directrice pour proposer Kumata, qui est un jeu, alors un petit peu plus illustré. Hein. On va pas dire qu'il y a un gros thème. Hein. On est dans la jungle, apparemment, parce qu'il y a des tuiles qui ont des feuilles. Mais en tout cas, c'est donc un jeu qui se joue à 4 et où chacun va avoir une série de dominos. Et ces dominos vont avoir 4 valeurs possibles. Rien, 1, 2, 3. Et on va trouver toutes les combinaisons de dominos. Qu'est-ce qu'on va faire de ces dominos? On va venir les placer sur un plateau central qui est constitué un petit peu aléatoirement, où on voit déjà des tuiles de couleurs qui correspondent à nos couleurs, avec déjà des valeurs, des riens, voilà, de présent. Le but du jeu, donc, c'est de placer ces dominos, et à la fin de la partie, on marquera autant de points que les valeurs qu'on voit du dessus du plateau. Donc, en gros, toutes les valeurs qui n'ont pas été écrasées, qui se retrouvent au sommet de toutes les piles. À son tour de jeu, je prends mon domino. Il y a un 2, un 3 dessus, je dois venir écraser un 2, un 3 sur le plateau. Quelle que soit la couleur, la mienne ou celle des copains. Bien entendu, vaut mieux que je garde mes couleurs avec mes valeurs et que j'aille embêter un petit peu les copains. Restriction de pose, je ne peux pas reposer un domino strictement qui recouvre un autre domino existant. Je dois croiser. On a déjà vu un petit peu ces règles-là dans un Acropolis, c'est pas des dominos, mais voilà, vous comprenez le principe. Donc à son tour de jeu, je pose ce domino-là et mes dominos sont répartis en deux piles. Et je ne peux jouer que ceux du dessus. Donc, quand j'enlève un domino, ça me découvre le suivant et je pourrai jouer donc avec les deux dominos qui viennent. Attention, si vous videz une pile complète de dominos, ben vous n'avez plus qu'une pile, vous êtes obligé de jouer celui que vous avez en face. Et si vous ne pouvez pas jouer parce que ben, la disposition du plateau central ne correspond à aucun de vos dominos, vous dépilez vos dominos, vous vous retrouvez donc avec potentiellement 3 piles. À ce compte-là, vous passez votre tour, mais vous aurez plus de choix pour le tour d'après. C'est pas perdu, votre tour n'est pas perdu, puisqu'à la fin, je vous ai dit qu'on marquera les points de nos cases que l'on voit au-dessus, mais on marque aussi les points de nos dominos devant nous qui sont visibles. Donc si j'ai fait 3 piles, je vais retrouver ça. Quid de la valeur 0, je vous ai dit, enfin, il y a une case qui n'a pas de valeur, en fait c'est un joker. Je peux mettre ce 0 sur n'importe quelle valeur, et inversement, je peux mettre n'importe quelle valeur sur cette case vide. Donc ça laisse comme ça un petit peu latitude. Dernier petit twist, vous avez un petit jeton totem. Ce jeton totem, vous le jouez quand vous voulez, sur votre tuile. Ça veut dire que là, vous n'écraserez pas ma tuile. Vous pouvez vous mettre sur aucune des deux cases de cette tuile. Et là, ben, vous vous assurez le scoring de cette tuile et en plus, le petit totem va marquer autant de points que la hauteur de cette tuile. Les autres hauteurs pour vos autres tuiles ne comptent pas, ça sert vraiment que les valeurs. Donc on a joué à 4. J'ai trouvé ça très sympa, ça m'a bien plu. Ça renouvelle un peu le jeu abstrait parce qu'on est 4 Et c'est un peu un jeu où on est à un contre tous, mais tournant. En gros, tout le monde va conseiller celui qui joue de jouer parce que l'intel, il a plus de points. Et puis voilà, comme on recouvre, ben, ça tourne. Et on y va comme ça au fur et à mesure. On retrouve bien la notion de jeu abstrait de Cosmo Ludo. Et clairement, ils ont envie un peu de sortir de leur gamme de jeux de joueurs pour essayer d'atteindre un public un peu plus large. Moi, je trouve que ça va aussi bien contenter les habitués de leur gamme que effectivement aller voir des joueurs, notamment limités par cette notion de deux joueurs. Là, on monte jusqu'à 4. Alors, ils nous ont montré que on pouvait avoir une version pour deux avec un plateau plus grand, plus de valeur. En fait, on retourne les tuiles et ces deux nouvelles couleurs. On peut jouer à 3. Donc voilà, il y a toute cette variété de possibilités. Mais en tout cas, moi, ça m'a bien plu, même à 4.
Ouais, j'ai trouvé ça assez cool. C'est, y a plein de choses astucieuses dedans. Il y a ce côté aussi où on essaie d'influencer un petit peu nos voisins pour qu'ils viennent plutôt écraser un tel plutôt que soi. Ça m'a fait penser à, je retrouvais là, un jeu qui était édité chez chez Blue Orange, qui s'appelle Fantastic Park. C'est un truc de domino comme ça, et c'est pareil, je crois qu'on a une couleur et il faut essayer de faire en sorte que sa couleur soit la plus présente au-dessus. Un peu les mêmes contraintes de pose, mais ça ressemble pas mal à ça, mais c'était pas terrible. J'y avais joué une fois, je n'avais pas trouvé ça terrible. Et là, ça m'a, plutôt chouette. Yeah. Mm. Même le feeling abstrait, pas trop présent, parce qu'il y a ce côté un petit peu influence autour de la table. Je trouve ça rigolo.
Oui, et puis c'est abstrait sans être abstrait, vu que tu as toujours le hasard des tuiles qui arrivent dans quel ordre, dans quel sens. Drew a essayé, ça se voyait, il essayait systématiquement de pas pouvoir poser ses tuiles pour avoir plus de...
Oh, les menteurs, ils me bloquaient à chaque coup, c'est pas possible.
Pour avoir le plus de piles possible, sachant qu'il marquerait plus de points à la fin, ce qui lui a pas forcément réussi, mais il a tenté un truc. Non, moi, de toute façon, je suis un grand fan des jeux de Cosmo Ludo et de Claude Leroy en général, et là, j'apprécie le petit virage
pas
qui...
Pas de côté?
Le petit pas de côté, merci, qui fait vers des trucs plutôt publics, mais tout en gardant l'âme de ce qu'il fait d'habitude. C'est hyper plaisant, oui.
Ouais. Et ils nous ont dit effectivement que là, c'est leur premier jeu comme ça, 4, avec un micro-thème, on va dire. Et il y aurait, en fait, d'autres jeux un peu de ce style-là, et ils continueraient, en fait, à faire vivre deux lignes de gamme. La gamme abstraite telle qu'on la connaît jusque-là, et cette gamme-là, un petit peu plus ouverte, on va dire, un petit peu plus familiale.
Ce serait intéressant d'en parler plus en détail avec Cosmo Ludo. Qu'est-ce que vous en pensez?
Ah oui, tiens, c'est pas con ça, on va leur demander peut-être.
Ouais.
Ok, je le note pour plus tard. Voilà, c'était donc Kumata. Pourquoi j'ai Hakuna Matata dans la tête, mais non, c'est Kumata de Claude Leroy et illustré par Marie Maka chez Cosmo Ludo. Donc c'est à venir dans les semaines, je crois que c'est mi-mars, il nous a dit, quelque chose comme ça. Bon, on a fait le tour, c'était finalement quand même une bonne journée alors que tout était quasiment fermé. On a quand même pu pas mal jouer, en plus on en a gardé parce qu'on aurait voulu parler plus, mais on est déjà à plus d'une heure et bon, on a quand même pas mal de choses à faire. Chers auditeurs et chères auditrices, c'est la fin de ce débrief. N'hésitez pas à nous laisser un commentaire dans le billet de l'émission. Partagez ce débrief et si vous êtes à Cannes, venez à notre rencontre sur le stand 506 ou même si vous nous croisez dans une allée, hein, d'ailleurs, vous voyez un t-shirt proxygé, vous pouvez l'arrêter. Si c'est pas nous, c'est pas nous. Mais c'est quand même un copain du coup parce qu'il porte notre t-shirt. Mais n'hésitez pas, ça fait toujours plaisir. Alors, sauf si on a une interview, nous embêtez pas pendant l'interview. Là, il y a des chances qu'on vous fasse un gros signe pour dire plus tard. Mais en tout cas, vous pouvez venir nous voir le soir aussi à la fin de ce débrief vers les 18h ou plus. Vous pouvez également donc nous aider en faisant un don. Pour cela, vous trouverez toutes les informations sur la page d'accueil. On le rappelle, c'est podcast.proxy-jeu.fr. Alors, on a dit proxy
avec un i, jeu avec un x.
Oui, oui. Alors,
avec un x rouge, attention.
Rouge ou noir, ça passe, mais mettez bien un x. Eh bien, c'est terminé. Donc, on se retrouve demain pour le débrief du deuxième jour de ce Fige 2026. Ah oui, ça tourne. Et d'ici là, jouez bien.